Je m'appelle Étienne Loiseau. Et ce que j'avais prévu de vous parler, c'est une petite partie peut-être de l'usage qu'on peut faire de la radio à des fins créatives. Et j'avais vraiment envie de focaliser sur le fait d'employer la radio plutôt qu'autre chose pour faire un objet artistique. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans mon petit texte de présentation, considérer vraiment la radio comme un moyen de création, comme un médium, et pas comme un média. C'est-à-dire que, bien sûr, la radio, on peut l'employer à des fins artistiques pour diffuser de l'art sonore. Mais on ne va pas parler de ça. On va parler vraiment de ce qui est spécifique à l'outil radiophonique, qui n'appartient qu'à lui et ouais, qui peut nous stimuler pour créer un objet artistique. Ouais. Donc pour vous parler de ça, je vais présenter quelques projets personnels, quelques travaux. C'est plus par facilité que je vous parle de ces travaux, par facilité dans le sens où je vais avoir plus de facilité à en parler dans les détails que des travaux d'autres artistes que je peux connaître par ailleurs, mais moins bien forcément. Et ces travaux que je vais vous présenter sont des tentatives, des expériences qu'il faut voir comme des... dont il faut voir l'intérêt plus dans le processus de conception et de réalisation plutôt que dans l'aboutissement à une forme parfaite, entre guillemets. Surtout que là, ce que je vais vous faire écouter, ce n'est pas l'œuvre, puisque pour moi, l'œuvre radiophonique, elle se passe au moment où elle se crée. Et donc, ce que je vais vous faire écouter, moi, ce sont des traces et des archives. Ce sont des enregistrements. Donc, il faut les prendre, voilà, pour ce que c'est-à-dire des traces d'expériences artistiques qui n'ont pu être reçues que dans le moment où elles se sont faites.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de travail de montage, c'est seulement de l'enregistrement pur ou...
Alors il peut y avoir des travaux de montage préliminaires, mais les expériences dont je vais vous parler, que je vais vous présenter, elles ont toutes utilisé le direct radiophonique pour se réaliser. Avec un besoin vraiment de le faire, c'est-à-dire ce n'est pas on l'a fait en direct, mais on aurait pu le faire en montage. Non, c'est il y avait des raisons particulières à chaque fois de le faire en direct. Pourquoi ? Parce que ça se faisait à un certain moment donné, il fallait que ça se passe à un certain moment donné, parce que il y avait une interaction nécessaire avec quelque chose qui se passait ailleurs, etc., etc. Mais je vais vous détailler tout ça. Et peut-être avant, quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est de vous expliquer mon parcours. Moi, je suis preneur de son de formation. Et en fait, c'est vraiment la technique du son qui m'intéressait d'étudier. Au départ, c'était parce que j'étais un peu musicien quand j'étais ado et... Par contre, je ne voulais pas être musicien dans la vie. Je n'avais pas ce tempérament de me lancer dans la musique. Et donc, j'ai trouvé trouver cette voie de garage qui était à apprendre la technique du son pour travailler dans le milieu de la musique, de l'enregistrement en studio, etc. Et à l'époque, donc c'était il y a une grosse dizaine d'années, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque, c'était une pratique, une technique qui s'apprenait pas vraiment de façon spécialisée dans des écoles pour ça. Quand on voulait étudier la technique du son, même si c'était pour faire de la musique, il fallait aller dans des écoles de cinéma. Et j'ai fait une école de cinéma à Bruxelles, en Belgique. Et là-bas, j'ai complètement changé d'intérêt. J'ai pratiqué un petit peu ce que je voulais faire dans mon cursus, mais ça ne m'a pas intéressé finalement. Et par contre, j'ai découvert dans cette école de cinéma autre chose. Plein de choses en fait. Je pense que le travail en groupe, le travail en collectif, ce besoin-là, puisque on travaillait avec d'autres étudiants qui apprenaient la caméra, etc. Donc on avait des projets collectifs. Et puis c'est une école particulière, c'est une école belge, donc avec une tendance documentaire. Une tendance cinéma du réel, c'est-à-dire que même la fiction belge, si vous connaissez un petit peu, elle est fortement ancrée dans le réel. Et donc, moi, alors que mon objet de départ, mon objet d'intérêt, c'était la musique, je me suis retrouvé en fait très très souvent à écouter le son du réel, à être soit en équipe ou soit tout seul à faire des sons dans la ville, etc. Donc tout d'un coup il y a ça qui s'est ouvert à moi. Et puis on avait un petit enseignement de la radio, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la création radiophonique, ce qu'on appelle la création radiophonique, donc les documentaires de création, les fictions aussi, même si je suis moins fan de ça. Et alors que moi, avant, j'écoutais la radio comme tout le monde, mais je ne connaissais pas du tout France Culture, par exemple. Et puis, tout est arrivé à peu près en même temps. C'est-à-dire, quand je finissais mes études, à la fois, je commençais à connaître la création radiophonique, donc je commençais à me rendre compte qu'il y avait des gens qui utilisaient le son, et seulement le son, pour raconter quelque chose, que ce soit une histoire, ou raconter le monde, ou raconter quelque chose de soi, par le son, etc. Donc, tout d'un coup, je voyais ça possible. Puis à la fois, ça a été... c'est la première fois que des amis m'ont emmené dans la radio associative où ils avaient leur émission. Donc j'ai découvert la radio aussi dans le fait d'être dans un studio. À ce moment-là aussi, j'ai fait mon premier documentaire radiophonique. Et j'ai aussi rencontré d'autres gens qui étaient passionnés de radio et qui avaient commencé une association pour promouvoir ce type d'expression, etc. Et donc, en fait, très très vite, j'ai eu à la fois, j'ai eu plein de casquettes, à la fois celle de technicien qui se met au service des autres, mais aussi une casquette d'auteur. Puisque j'avais mes propres projets, aussi une casquette de quelqu'un qui doit avec ce groupe, cette association, qui doit réfléchir à ce que c'est que cet objet radio, création radio, qu'est-ce que c'est, comment le promouvoir, comment le diffuser, comment communiquer là-dessus, etc. Et donc cette multiple approche du même objet, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai développé l'aspect de réflexion, de critique, etc., en lançant une sorte de magazine en ligne il y a 5 ans qui s'appelle Synthone et qui se veut être un lieu de critique d'art radiophonique, comme il existe des revues de critique de cinéma, d'art ou de littérature. Donc je suis avec une petite équipe, on fait ce travail-là de critique d'art radiophonique. Entre-temps, ça m'est arrivé de travailler dans une vraie radio, c'est-à-dire une radio associative à Marseille. Et donc, même quand je m'intéresse à ce qu'on appelle de la création radiophonique, donc des œuvres sonores produites qui ont un... qui se font sur un temps donné, qui ont un sujet pour lesquels un auteur ou une auteure va passer du temps à enregistrer et puis ensuite à monter en studio, etc., avant de le confier à une radio. Moi, j'ai toujours été attentif à la façon dont la radio n'était pas seulement un canal ou un tuyau de diffusion, mais comment elle peut être vraiment un outil de création. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient une pratique de la radio associative qui était très créative et très spontanée aussi. Parce qu'on a tendance un peu à dire qu'il y a la création radiophonique, ça se passe à France Culture, voilà. Et puis c'est d'ailleurs labellisé création radiophonique et ça se fait selon un certain protocole, donc justement, où finalement la radiodiffusion, elle est complètement distante des auteurs. Les auteurs, ils font leur documentaire, etc. Ils passent du temps en studio, puis après, ça leur échappe complètement. C'est balancé sur l'antenne. Et au contraire, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient une pratique très créative, mais qu'on ne reconnaît pas vraiment comme créateurs radiophoniques aussi. Et donc, je suis toujours assez attentif à ce flou dans la définition de ce que c'est que l'art radiophonique. J'espère que ça va se préciser au fur et à mesure de mon intervention et je vais tout de suite aller dans le vif du sujet en vous parlant d'un premier projet. Ce premier projet dont je vous parle s'appelle l'échange des présents. C'est le titre, l'échange des présents. Et c'est une création que j'ai conçue en 2006 sur Radio Grenouille à Marseille. Et c'est le contexte de cette émission, c'était le contexte plus général, c'était l'anniversaire de l'art, Art's Birthday. Vous connaissez peut-être cette idée de Robert Filliou, donc qui est un artiste lié à Fluxus, qui avait lancé cette idée assez malicieusement parce que il a lancé l'idée que l'art était né un jour précis, un 17 janvier. Alors c'est malicieux parce que lui-même était né un 17 janvier. Il y a 1 million d'années, donc il a écrit un texte qui raconte ça, un texte poétique. Il a écrit ça en 1963. Ça s'appelle « L'histoire de l'art chuchoté » ou « L'histoire chuchotée de l'art », je ne sais plus. Il a écrit ce texte en décrétant que voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a 1 million d'années, un 17 janvier, un homme a saisi une éponge et l'a jetée dans un seau d'eau, etc., etc. Ça continue. Et 10 ans après, en 73, il a repris cette idée pour en faire un événement, en rassemblant des amis artistes dans le monde entier qui voulaient bien célébrer l'anniversaire de l'art. Donc c'est un événement c'est un prétexte, en fait, à se réunir, à se rassembler, à offrir des cadeaux à l'art sous toute forme possible de transmission. Donc ce sont des artistes qui ont beaucoup travaillé avec la radio, mais aussi au fur et à mesure des évolutions techniques, avec la télévision à balayage lent qui peut se transmettre par les ondes, avec le fax, le téléphone, le mail art bien sûr. Bon, ça continue ça a été repris bien après la mort de Robert Filliou par des artistes dans le monde entier, et donc Art's Birthday, ça existe toujours chaque année. Donc j'avais inscrit l'échange des présents dans cette idée-là. Et l'échange des présents, c'est quoi? C'est alors il y a un jeu de mots avec le mot présent, parce que les présents, c'est les cadeaux. Et donc l'idée, c'était de considérer la radio comme une plateforme pour échanger des cadeaux. Donc j'avais invité au préalable, par l'antenne et par des messages, etc., j'avais invité les auditeurs à ce jour-là, à l'heure précise, à nous téléphoner pour nous offrir quelque chose, nous offrir quelque chose à l'art, offrir un son de chez eux. Et pourquoi il y a un jeu de mots avec le mot présent? Parce que pour moi, c'est la présence, c'est le temps présent. Et ce qui me plaisait comme idée, c'était de se connecter et Oui, voilà, c'est vraiment ça l'idée de connecter des espaces-temps différents. Parce que ce que je trouve assez magique dans la radio quand elle se fait dans le temps réel, c'est qu'on est en connexion invisible avec des espaces différents, qui sont des espaces familiers, sont là où les gens écoutent la radio, c'est où ils écoutent chez eux ou dans leur voiture, ou éventuellement à leur travail, etc. Et donc au moment où la radio se fait, tout ça rentre en connexion. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est quand ces lieux ne sont pas juste des lieux de réception, mais quand eux aussi peuvent se mettre à émettre. Donc l'idée, c'était vraiment, on se rejoint, quoi. Vous nous appelez, vous nous téléphonez, et on se rejoint dans un même espace. Indéfini, qui est l'espace radiophonique. Voilà ce que c'était l'échange des présents. Alors, bien sûr, pour réaliser une émission de radio qui puisse se passer sur un temps donné et qui puisse éventuellement être écoutée par des auditeurs, je ne pouvais pas me reposer que sur le hasard de est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont appeler ou pas. Surtout que c'est une pratique que les auditeurs ont pas forcément d'ailleurs d'appeler spontanément la radio, etc. Ça se fait pas sur toutes les radios, ça se fait pas. D'ailleurs, il y a des pays où ça se fait le plus. Donc il fallait un peu prévoir le coup et j'avais demandé à une artiste sonore qui s'appelle Lidwin van der Hulst. Que je savais à distance et que je savais en possibilité de nous transmettre du son, de nous faire un concert en direct par streaming, je lui ai demandé de nous offrir aussi ce cadeau. Donc en fait, le fil conducteur sonore de cette émission de 30 minutes, c'est elle qui nous envoie son cadeau. C'est une sorte de concert improvisé qu'elle envoie au studio de radio. Avec tout ça, bien sûr, on est en interaction. On se parle, on s'écrit, on chatte par Skype. Il y a les sons de Skype qui se mêlent à tout ça. On entend les coulisses de la radio, de l'émission de radio en train de se faire. Et voilà, c'est tout. C'est un dispositif et c'est une expérience. Et je vais vous en faire écouter 5 minutes. Thank you. après, par la suite, il y a des interventions téléphoniques plus parlées. Là, voilà, c'était un enfant qui était sollicité. Et ce qui m'est apparu, moi, après cette expérience, c'est que en laissant une grande part, enfin, en mettant un dispositif en place, pas n'importe comment, c'est-à-dire en l'ayant préparé quand même à l'avance, et en laissant une grande place à l'inconnu, l'aléatoire, à des choses qu'on ne maîtrise pas, ben, malgré tout ça, il y avait des... On peut appeler ça de la magie, quelque chose de magique qui se passait de façon complètement indéterminée à l'avance, complètement imprévue, c'est-à-dire des sonorités qui se répondent, qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer, c'est-à-dire les sonorités de Lidwin, voilà, comment elles répondent à cette petite voix enfantine, etc. Il y a quelque chose comme ça qui, au niveau mixage sonore entre des éléments qui sont artistiques et des éléments qui ne le sont pas, qui sont vraiment issus du réel, entre guillemets, il y a des choses qui se passent et qui sont magiques et qui sont un vrai plaisir, qui donnent un vrai plaisir esthétique. Et sur cette base-là, j'ai essayé d'autres choses.
Ouais. On a entendu, en fait, c'est la superposition de différents présents, en fait.
Exactement, c'est un mixage qui se fait à la table en direct, quoi.
D'accord. Ouais. Il y a plusieurs lignes, en fait. En gros, vous avez plusieurs lignes de téléphone.
Il y a une ligne de téléphone qui est tour à tour utilisée. Il y a le concert musical streamé qui arrive dans la table. Et puis, d'une façon que je ne sais plus maintenant, mais moi, je suis aussi en communication avec l'artiste, avec Lidwin, par Skype. C'est pour ça qu'on entend des fois des sons de Skype. On entend le clavier, parce qu'on chatte, et puis tout le message. Et elle a un retour de ce qui se passe, parce qu'elle écoute Radio Grenouille sur le stream. Elle est à Nice, nous on est à Marseille. Donc on peut s'écouter comme ça, mais avec un délai. Et je pense que les délais aussi rentrent à l'intérieur de ça. Il y a un truc qui se passe aussi que je trouve intéressant et que j'ai pu aussi expérimenter comme ça de façon assez crue, de mettre en boucle deux radios, par exemple, deux stations de radio à distance, par les streams, puisque le principe du streaming induit un délai qui est aussi imprévisible, c'est-à-dire que si j'appuie sur play, si ça se trouve il y a 5 secondes entre le moment où ils émettent vraiment et le moment où je le reçois, si j'avais appuyé sur play la seconde d'après, ça pouvait être 10 secondes ou 14 secondes, enfin, c'est quelque chose, enfin, le réseau internet est complètement... incontrôlable pour ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir quel est le vrai délai et c'est aussi fluctuant. Bon, alors je crois que dans ce qu'on entend, il y a aussi un bouclage qui se fait. Et 2 ans après, en 2008, j'ai réitéré l'idée d'une émission pour l'anniversaire de l'art en mettant en place 3 dispositifs autonomes. D'abord, une vraie émission de radio, fausse émission, parce que présentée comme étant une émission de variété, mais au lieu que ce soit des chanteurs pop qu'on entend, bah, c'est des artistes sonores, soit qui nous avaient envoyé des pièces sonores, soit qui faisaient des interventions en direct par téléphone ou par stream. Donc ça, c'était c'était une émission, je crois, de 3 heures, donc avec une programmation, une conduite, comme on dit, une conduite très, très préparée, et que moi, je présentais comme un animateur de radio, donc il y avait ça. Et puis, dans la pièce à côté, et vraiment à côté du studio, j'avais organisé un karaoké. J'avais organisé une fête complètement autonome, Et j'avais invité tous les gens qui voulaient venir à venir manger des gâteaux. Et c'était une fête d'anniversaire, quoi. C'était l'idée de la fête d'anniversaire. Donc manger des gâteaux, boire des coups et chanter au karaoké. Et le troisième dispositif, c'était avec un collectif d'artistes qui s'était mis ensemble pour l'occasion, enfin on avait parlé, et puis ils avaient eu une idée, c'était dans une pièce qui était à distance, et d'ailleurs ils nous envoyaient leur son aussi par stream, je ne sais plus exactement. Ils faisaient de la musique ensemble, ils faisaient un bœuf, une impro, pendant 3 heures, et sur le concept du... ils avaient inventé un nom de groupe, et c'était le groupe qui ne s'arrête jamais, quoi. Donc on faisait un peu croire ça aussi, voilà. Qu'il y avait quelque part, pas loin, un groupe de musique qui jouait, qui faisait une jam ensemble, et de temps en temps on allait écouter ce qu'ils faisaient. Donc il y avait ces trois espaces-temps autonomes, mais qui coexistaient, qui étaient mis en place. J'avais préparé un petit... Comment on fait ? Voilà. Juste pour vous montrer des photos de ces différentes choses. Autre exemple de cette idée de mettre en place des dispositifs qui sont à la fois autonomes et qui, à la fois parce qu'on les conçoit quand même en cohérence les uns avec les autres, des dispositifs qui vont se rencontrer d'une façon esthétique ou poétique à un moment donné, comme par magie. Je vais vous lancer le son et vous expliquer en même temps. C'est un petit peu complexe à saisir, mais vous allez comprendre. En fait, là, l'idée, pour dire les choses grossièrement, l'idée, c'était, il se passe un concert et on veut le transmettre. Un concert public avec, je ne sais pas, 500 personnes. Alors, bien sûr, ce concert, il y a un contexte, il y a un sujet. Pourquoi ça se passe là, à ce moment-là, je vous expliquerai après. Mais l'idée, c'est un concert qui a été organisé par la radio, toujours la même, Radio Grenouille à Marseille. Et c'est très important pour la radio, ce concert, c'est l'aboutissement de plein d'autres choses. Ça s'appelle Maintenant. Et l'idée, c'est de le retransmettre par la radio. Bonsoir, pour les auditeurs.
Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent sur les 3 minutes pour cette soirée entièrement consacrée à Maintenant, exploration musicale et radiophonique.
Donc c'est retransmettre le concert pour les auditeurs qui ne sont pas là. Et on m'avait demandé de le superviser. Et pour moi, c'était très important de ne pas le faire n'importe comment. D'abord parce qu'on ne pouvait pas le faire n'importe comment comme n'importe quel concert qu'on entend parfois à la radio. C'était pas possible par la nature même du concert. Parce que ça se passait dans une salle avec des spectateurs qui étaient distribués en îlots. Et des musiciens aussi en îlot, parmi les spectateurs. Des musiciens qui, pour certains, jouent en acoustique, un chœur en acoustique, des chanteurs qui se déplacent, et qui ne sont pas sonorisés du tout. Et aussi des haut-parleurs diffusant des éléments musicaux. Donc c'est le concert, la proposition artistique qu'on devait transmettre était complexe. Et on ne pouvait pas simplement prendre la sortie de console régie et la balancer à l'antenne. Bon, ça, c'était, par nature, c'était complexe. Mais l'autre aspect était que c'était un projet qui avait une grande importance pour cette radio. C'était un projet qui avait... c'était le terme, l'aboutissement, le point d'orgue de 1 an et demi de travail de gens de la radio et de gens d'autres structures sociales et culturelles autour de la radio avec un compositeur qui s'appelle Nicolas Frise.
Qui va venir dans un mois à l'Adoratus.
Formidable. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui travaille souvent sur des résidences longues et souvent sur des sujets liés au monde du travail, etc. Et il avait choisi, à l'invitation de la radio, la radio l'a invité à faire une résidence à la radio, mais aussi plus globalement à Marseille. Et il avait choisi, lui, de travailler sur le thème des services publics et notamment de la poste. Pourquoi ? Parce que dans la poste, il y a aussi tout un imaginaire métaphorique des échanges, de la transmission, etc. Bon, et donc il y avait une matière poétique aussi. Donc pendant un an et demi, ce gars, il travaillait avec des gens de la radio qui eux-mêmes couvraient un peu ce sujet-là à leur manière, d'une façon journalistique ou d'une façon musicale, dans la programmation de la radio, etc. Il a travaillé avec des chœurs amateurs du coin, etc., des postiers, bref, tatata. C'était très compliqué. Et donc, et pour aboutir à un concert où il y avait justement, c'était la restitution finale qui incluait des musiciens professionnels, les amateurs qui avaient participé, les gens de la radio. Donc il y avait cette complexité et il fallait que nous, on le restitue radiophoniquement aussi. Donc ça a vraiment été ça l'idée, c'est-à-dire nous allons faire une création radiophonique à partir de ce concert. Pas simplement une retransmission. Et Nicolas Frise nous a laissé carte blanche. Peut-être qu'il l'a regretté un petit peu après, je vous dirai pourquoi. Et donc, toujours dans cette idée de travail en collectif, dont je vous ai un petit peu parlé au départ, et qui est un travail qui n'est pas tout... Tous les gens de radio ne travaillent pas collectivement, mais quand même, à plusieurs moments, plusieurs reprises, on se retrouve quand même souvent à devoir collaborer. Et ici, on s'est mis à collaborer à quatre. Donc, moi qui étais plus le centralisateur des sons, le metteur en ondes, mixeur, je ne sais pas comment dire, épaulé par un technicien qui gérait un peu l'arrivée des sons. C'est-à-dire que moi je mixais et en même temps je déclenchais des sons. Mon copain Xavier Thomas, qui était journaliste à la radio et qui là prenait un rôle d'animateur, comme vous avez entendu au départ, bienvenue, qui explique tout de façon très didactique pour les auditeurs, parce que ça va quand même durer une heure et demie cette histoire-là, et c'est long à commencer. Donc il a commencé à parler alors qu'on entendait les spectateurs qui arrivent dans la salle, etc. Qu'il explique ça. Et puis au fur et à mesure, petit à petit, il va par moments disparaître et il va quitter ce rôle de commentateur, animateur, pour par des glissements rentrer plus dans un rôle de narrateur. Donc il va, par quelques mots, quelques phrases.
Au-delà de la musique.
Ok, il est toujours en train dans l'explication, mais il va devenir un peu le conteur de cette création radiophonique.
Conscientiser sur la problématique.
Donc il y a ce glissement que je trouve intéressant du média au médium.
Visionnage de films, échange de paroles et d'expériences.
Et puis il y a une quatrième personne dont je n'ai pas parlé, Caroline Galmo, qui était une preneuse de son mobile. Pour moi c'était important que dans ce vaste champ musical qui était devant nous, il y ait quelqu'un qui puisse aller chercher les sons. Et qui donc était avec une perche et un émetteur HF pour nous ramener du son brut. C'est grâce à elle au début qu'on entend les gens qui arrivent dans la salle, etc. Donc en gros, moi j'avais Xavier au micro, Caroline son HF pour des prises de son ciblées. J'avais aussi les éléments musicaux électroacoustiques de Nicolas Frise qu'il allait diffuser dans le concert. Et puis, j'avais différentes matières à ma disposition prêtes à l'emploi. J'avais un enregistrement de la seule répétition qu'on a eue à ce concert et que j'ai laissé courir dès le début. Et puis, j'avais en des éléments ponctuels dont je ne parlerai pas, qui étaient, mais qui étaient issus de tout, tout le travail qui avait été fait avant, sur un an et demi. Ça pouvait être des paroles, des gens, voilà, des récits, des paroles de brutes de gens qui avaient été montées, hein, bien sûr, des petits éléments comme ça, ou des éléments plus musicaux. Et là, surtout, j'avais une bande, entre guillemets, enfin, un enregistrement brut d'une tournée d'un facteur qui dure exactement une heure et demie. Et qui avait été, qui n'était pas utilisé en spectacle. Donc plein d'éléments hors spectacle. Et en fait, tout le direct a consisté à mixer ces éléments. Et notamment à introduire ces bandes qui étaient lancées au départ, mais qui couraient toutes seules, qui vivaient leur vie. Un peu au hasard de ce qui se passait aussi. Parce que nous, on était témoins visuellement de ce qui se passait, mais on était un peu dans notre bulle, dans un coin de la pièce, de la salle de spectacle. Et voilà, donc c'est toujours l'idée que on met en place des choses, on leur laisse vivre leur vie, et parce qu'il y a une cohérence sur le sujet, sur au niveau des sonorités, bizarrement ça marche tout ça. Et bizarrement on arrive à quelque chose qui s'écoute. Bon, là je laisse un petit peu courir. Exclusivement dans la tournée du facteur.
Tu vas bien ?
Oui, toujours, hein, il faut. Allez, bye.
Moi, ce que je trouve hyper excitant, en fait, dans ce genre de réalisation, et qui sont des véritables performances, en fait, quand on est dedans, c'est très très intense. C'est qu'on est. On passe d'un monde à l'autre, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça la radio, c'est-à-dire qu'on connecte différents endroits, différents espaces qui pourtant... et différents espaces où vivent des gens différents au même moment, ou pas, avec cette ambiguïté que des fois c'est un enregistrement qu'on entend, bien sûr, on n'est pas tout le temps dans le temps réel, le direct du ici et maintenant. Et là, il y a ce jeu justement entre ces différentes couches que je trouve très intéressant.
Bien
couvrir.
Comment ?
Bien couvrir.
Ah ouais, c'est sûr que...
Maintenant, il fait nuit.
Ce projet. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer au suivant. Le suivant, c'est un projet que j'ai réalisé avec des étudiants, des étudiantes à l'école d'art de Caen-Cherbourg, les âmes, très récemment. Et c'était une invitation très très intéressante, puisque d'abord j'étais invité à travailler avec eux 2 fois 4 jours, et la première fois c'était en dehors de toute obligation de produire quelque chose, c'était juste une exploration de la radio, de ma façon de faire de la radio en tout cas avec eux. Et c'était prendre le temps aussi de se connaître, parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas nombreux, hein, 6-7, je crois, et en 5e, 4e, je ne sais plus. Et se connaissant pas forcément bien, etc. Donc c'était une bonne occasion. Et moi, j'ai tout de suite demandé à... Donc il y a un superbe studio son à l'ESAM, mais j'ai tout de suite demandé à travailler avec une vraie radio. Et on a contacté et rencontré les gens de Radio Phoenix, qui est la radio campus de Caen. Parce que voilà, moi, je voulais vraiment les amener à projeter leurs idées dans l'espace de la radio. Donc voilà, première semaine, on explore, on part à partir de leurs projets existants, de choses qu'ils avaient déjà en cours, et on les met en forme et on voit comment les diffuser. On a eu deux créneaux d'une heure sur l'antenne, et voilà. Par contre, la deuxième fois que j'y suis allé, c'était aussi 4 jours, et on avait une véritable commande, c'est-à-dire qu'on s'inscrivait dans un festival qui est piloté en partie par des gens de l'école, qui s'appelle Interstice, qui est un festival multimédia très intéressant, avec une programmation très pointue. Et la commande, c'était de devoir faire une performance radiophonique. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans dans l'idée de performance radiophonique? Surtout dans l'objectif de présenter ça à un public qui, on était programmé à une heure précise, 23h à partir de 23h, dans une salle de spectacle où il se passe autre chose avant, des concerts, etc., des performances. Donc il y avait plusieurs, je dirais qu'il y avait un peu deux optiques opposées, c'est-à-dire soit on n'est pas là et les gens écoutent la radio, nous on est dans un studio de radio ou ailleurs, enfin, et ils écoutent le résultat en train de se faire, c'est la première optique. Donc on joue le jeu de la radiophonie complètement, c'est-à-dire qu'on ne se montre pas, on reste invisible. Et l'autre optique, c'était au contraire, on est sur scène et on montre la radio en train de se faire. Et dans les deux cas, en fait, il y a quelque chose qu'on perd. Parce que, dans ce contexte d'événements publics, hein, bien sûr. Parce que, ben, voilà, dans le premier cas, on n'a pas le retour du public. Et on n'a pas cette interaction possible, qui peut être minime, hein, mais voilà, on n'a pas. Et dans le deuxième cas, si on est dans la radio en train de se faire, bah, on ne fait pas de la radio, on fait quelque chose pour le public, qu'il écoute sur des enceintes. Voilà, c'est comme si on... Peu importe qu'on fasse de la radio et que ça soit entendu par d'autres gens, le public qui est là, lui, il ne voit pas de la radio vraiment, finalement. Ce n'est pas vraiment de la radio. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi des situations où on peut mettre en scène la radio, la montrer, parce que c'est aussi un peu dans ma préoccupation aussi de autre, hein, qui est de promouvoir ce moyen d'expression. J'aime bien aussi amener des situations où les gens prennent conscience que la radio, c'est autre chose que des news, de la musique, c'est quelque chose qu'on peut écouter vraiment, voilà. Et donc là, l'idée, ça a été de faire un mix des deux, en fait, ces deux aspects-là. Pas se montrer, mais un petit peu. Et quand même faire en sorte que ce soit vraiment la radio qui soit le centre d'intérêt. Et alors on avait des étudiants assez différents, etc. Donc comment trouver un fil conducteur pour tout ça dans un collectif, c'est toujours un peu compliqué. On peut vite facilement être frustré. Parfois il y a des égos qui prennent le pouvoir, etc. Donc il fallait un peu préparer cette situation, mais quand même trouver un fil conducteur. Et en fait, donc c'était l'idée d'un prof, c'était de ramener une étudiante extérieure au groupe. Parce que moi, je lui disais que j'avais envie... Bon, il y a ce lieu-là de spectacle, qui s'appelle la fermeture éclair. Et puis, il y a l'autre lieu qui est le studio de Radio Phoenix. Et moi, j'ai envie qu'on puisse... relier ces deux lieux géographiquement aussi. Et donc, il y a une étudiante qui s'est rajoutée au projet, qui, parce que elle travaille sur la, dans son travail artistique, elle travaille sur la marche. Elle va au hasard en prenant un bus, parce qu'elle n'est pas de Caen, donc c'est assez facile pour elle de se perdre. Elle prend un bus au hasard et elle va au terminus et puis elle essaye de retourner à son point de départ en suivant le chemin le plus rectiligne possible. C'est son truc. Elle documente ça par des enregistrements et par un tracé sur une carte. Voilà. Elle a un protocole. Et on a trouvé, moi j'ai trouvé ça intéressant comme, et on a travaillé avec elle sur le fait de aller dans son sens, donc respecter son travail, mais le transposer un tout petit peu, lui demander de l'adapter un petit peu à notre projet, et en faisant quelque chose qu'elle ne fait pas, c'est de le faire et ben dans un moment de performance qui sera rendu public. Normalement, c'est quelque chose qu'elle fait par elle-même, toute seule, dans son coin. Ça. Et aussi de le commenter tout le temps. Alors qu'elle le fait de façon très silencieuse, très solitaire, etc. Là, on lui a demandé de se forcer un peu à décrire ce qu'elle fait. Parce que c'est une fille qui est assez étonnante, c'est-à-dire que si elle rencontre un obstacle, il faut absolument qu'elle passe par-dessus, ou bien qu'elle le contourne, mais en longeant le mur, enfin c'est assez rigolo, donc il fallait que ça transparaisse, ça. Il fallait absolument qu'on l'entende. Donc voilà, c'est Marianne qui a été notre fil rouge. Et autour de ça, on a greffé différents travaux, qu'on pourrait appeler des modules sonores, soit des choses qui étaient préparées à l'avance par les étudiants, donc qui étaient pré-produits, pré-montés, soit des choses qui se faisaient en direct au micro. Et ça a donné, c'était ce qui était aussi ce que je trouvais intéressant dans ce projet d'émission, c'est que on savait quand on commençait l'émission, mais on ne savait pas quand on la terminait. Et c'était la durée de la marche de Marianne, de son point de départ à son point d'arrivée, qui conditionnait la durée de l'émission et qui conditionnait un peu notre conducteur. C'est-à-dire que nous, on avait beau préparer des choses, il fallait qu'on ait assez de matière, etc. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu limite. Et heureusement, elle a pas couru.
On est émission dans 5 minutes.
Elle est arrivée au bon moment. Comme par hasard, bien sûr, toujours l'idée de tiens, il se passe quand même quelque chose de magique, c'est étonnant. On met en place des choses et il se passe quelque chose.
On air, émission dans 4 minutes et 30 secondes. Alors allumez vos postes de radio.
Alors ça, c'est à la fois un peu une blague et un truc dont on avait vraiment besoin, c'est-à-dire que le rendez-vous pour les auditeurs, c'était 23h, donc il fallait qu'on soit prêt à 23h. Mais on avait besoin de 5 minutes, d'un tampon de 5 minutes avant. Donc il y a cette bande-son, cette espèce de compte à rebours qui dure 5 minutes.
Émission dans 4 minutes.
Parce que sur place, sur le lieu de spectacle, à la fermeture éclair,
il
fallait
l'heure d'allumer vos postes de radio.
Il fallait installer le lieu d'écoute. Et en fait, le lieu d'écoute qui était le lieu des concerts précédents, il fallait installer des tables, des petits postes de radio, faire venir les gens qui étaient coincés au bar, etc., pour qu'ils s'installent. Et on s'était donné 5 minutes pour ça. Donc on avait des complices.
Émission dans 3 minutes.
Qui était sur place, bien sûr, et tout le reste de l'équipe, dont moi-même, on
c'est
était
le temps d'allumer au poste de radio,
au studio de Radio Phoenix. Notre principal souci, c'était de pouvoir transmettre en direct la marche.
Il est maintenant l'heure d'allumer vos postes de radio.
La marche de Marianne. Et on a essayé plusieurs trucs. Et en fait, ce qui a fonctionné le mieux, c'était de prendre le son avec un téléphone.
On met
un iPhone.
Émission dans 2 minutes et 30 secondes.
Et pas du tout avec un appel téléphonique, parce que quand le téléphone coupe toutes les fréquences autres que la voix et met un compresseur. Et moi, je voulais qu'on entende la marche, les bruits de vêtements, etc., éventuellement l'interaction avec les bruits de la ville. Et ce qu'on a trouvé le mieux, c'était d'utiliser l'application Skype du téléphone portable. Et on a un spectre beaucoup plus large. Et vous allez entendre, c'est pas mal.
Émission dans 2 minutes.
J'avance un petit peu. Je vous fais cadeau.
Quelle est la différence si on passe par Skype plutôt que de passer par le téléphone ?
Alors, ce qu'il y a de différent, c'est que le téléphone, il est fait. Il y a une électronique qui est faite pour favoriser la voix et la voix du locuteur. Donc en fait, toutes les fréquences hautes que la voix, les basses et les extrêmes aigus, sont coupées. Et en plus de ça, ça favorise ce qui est près du micro, donc par un système de compression et de limiteur, pour que ça ramène tous les sons de la personne qui parle, mais pas le reste. Donc il y a un effet de coupure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, des fois, si on s'éloigne un peu, il y a un effet de coupure qui fait qu'on n'entend plus rien, parce que le téléphone, il est fait pour couper tout ce qui est indésirable. Et nous, c'était tout le compte, enfin, c'était aussi tout le reste qu'on voulait, quoi. Donc on a essayé le téléphone, mais c'était vraiment pas ça qui marchait bien, quoi.
Et Skype,
pas ça. Et Skype, non, et c'est étonnant, mais il a un spectre beaucoup plus large, en tout cas parce qu'au départ, Skype a été conçu pour les ordinateurs, donc peut-être que ça évoluera. Et pour l'instant, l'application Skype mobile, elle est comme ça. Si ça se trouve, elle va changer, parce qu'effectivement, il y a ce problème-là. Mais voilà, c'était très bien de voir ça. Et donc là aussi, petite dérogation, mais ça on l'a pas dit à l'antenne, c'est que Marianne, qui est habituellement seule, là il fallait qu'elle soit aidée, qu'elle n'allait pas elle-même grimper au grillage et porter le téléphone, etc. Donc elle était suivie par un preneur de son qui faisait rien d'autre que ça, qui ne l'a pas aidée, etc., mais qui faisait exactement les mêmes mouvements qu'elle et qui la perchait avec son téléphone. C'est Nicolas Germain qui est prof à l'ESAM qui a fait ça.
Émission dans 30 secondes.
Ouais.
On est émission dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
c'est trop.
On est.
Donc là, ça y est, on est en direct.
Nous aussi.
À qui elle s'adresse? Nous qui sommes réunis pour l'écouter.
petite lampe rouge est allumée. Et c'est pour Marianne un feu vert.
Mon voyage commence ici et maintenant, le jeudi 16 mai à 23h environ, dans le studio de Radio Phoenix à la cité universitaire Lévisée de Caen. Mon objectif est de me rendre au festival Interstice, plus précisément à la salle de spectacle La Fermeture Éclair, située quai François Mitterrand, où vous êtes peut-être déjà réunis pour m'écouter. Je vais y aller à pied, sans suivre le parcours dessiné par l'aménagement urbain, mais en me créant le mien, en restant au plus près de la ligne droite théorique qui relie le lieu d'où je pars à celui où je souhaite arriver. Si vous vous trouvez ailleurs, je vous invite à rejoindre comme moi la fermeture éclair, en passant par le plus droit chemin, à la manière du nom de radio.
Ce soir, Marianne pose carte sur table, et pour seule conduite, une boussole en main, elle a décidé d'aller à la rencontre des auditeurs, à la rencontre de certains auditeurs, en suivant le chemin des ondes radio.
Je vais quitter ce studio pour commencer ma marche.
Ce soir, c'est comme si la radio prenait la rue, qu'elle se mettait en marche, qu'elle joignait le geste à la parole. Attention, il peut se faire qu'au cours du trajet, des digressions surviennent et que le déplacement devienne dérive, que l'onde rencontre des obstacles à contourner ou à dépasser.
Je compte sur votre écoute attentive qui saura me guider jusqu'à vos oreilles.
Et c'est ainsi qu'à petits pas étouffés par la moquette du studio, Marianne et la radio quittent le lieu d'émission. Quelque chose survient ici, maintenant, et en même temps ailleurs. Cela pourrait se passer sans vous, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et nous allons l'activer pour vous et rendre audible l'invisible. En marche!
La première chose à faire pour l'instant, c'est de prendre la boussole et d'essayer de trouver le sud à 170 degrés précisément, parce que c'est la direction que je vais essayer de suivre tout au long de cette marche.
Donc là, on est passé sur le...
C'est parti.
Sur le téléphone.
La boussole m'emmène vers une voie sans issue, je pense. Il y a un grillage en face de moi et à ma gauche, un trop grand mur pour être franchi. Étant donné que le grillage est à peu près à ma hauteur, je pense que je vais essayer de passer par-dessus. C'est bon. Je reprends le cap. Et je continue. Après avoir traversé la voie de tram, je me retrouve devant la haie d'une propriété privée. Et donc je vais utiliser mon jeton pour savoir si je passe par la droite ou par la gauche pour contourner cet obstacle. Ce sera par la droite. J'ai l'impression que je me trouve dans un quartier résidentiel et dans ces conditions, la marche en ligne droite est particulièrement difficile parce que je ne souhaite pas traverser les propriétés privées et en général, elles sont accolées les unes les autres. Ça m'oblige donc à faire de grands détours
Et après, c'est très difficile de les compenser pour revenir sur ma ligne.
S'affranchir de tout sens de l'orientation. Chercher le chemin le plus court,
très silencieux,
tracer une droite
évidemment,
et s'y accrocher comme un fil d'Ariane. C'est ainsi que tu as choisi de te déplacer dans le paysage. Mais ce soir, le paysage est essentiellement radiophonique. Et c'est toi qui transportes l'onde du studio de la radio à la fermeture éclair, où un public est en ce moment même pour nous écouter. Pour te guider, tu auras ma voix, sans artifice, prenant les choix à ta place, t'indiquant la direction, te prenant par la main. Tu es déjà dans la rue, tu as pris ton cap et tu marches en ligne droite. Aucun obstacle ne te barre encore la route. La nuit est calme et la cité est en grande partie plongée dans le sommeil. Les graviers roulent sous tes baskets. Tes sens sont en éveil et tu perçois chaque changement de revêtement, de luminosité. La rue et la nuit te réservent encore des surprises.
La course était en marche. C'était un fait acquis. J'avais assisté au départ, ça au moins, j'en étais sûr. Et alors maintenant, quelle est la suite ?
J'ai tiré un trait sur l'impossibilité, la coutume, le rituel.
Bon, t'as bien réglé quand même.
Mon égard fait des courbes et défait le point dans un tissu de dalle que je veux vite rattraper.
Tout est vu en petit, quoi. Pas possible de le voir en grand.
J'ai tiré un trait comme une rature punissant le circuit.
Il va nous arriver une grosse tuile. Tout ça, on le sait.
Du point A au point B, j'ai tendu l'ombilical pour un funambulisme insolent.
On sait qu'on va l'endurer.
Si je tombe, je ne me ferai pas mal.
La rose est une petite signature et la route est à vous.
Le chemin est un dictateur. La direction est partout. Je commémore l'apesanteur dans chaque trace que je ne laisse pas.
Non, David, vous avez franchi un trottoir de plus de 50 cm.
La cartographie capture.
Il y a des endroits qui étaient jolis naturellement, on a dépensé de l'énergie humaine, de l'énergie mécanique et des produits chimiques toxiques. Et le résultat après, c'est que tu as des terres dégueulasses, des talus qui sont arides, désolés, moches.
Je rêve de croisade vers le canular, de voyage personnel, amovible, substituant.
On peut théoriser toujours après, quoi. Ça paraît presque inéluctable qu'on va vers ce chemin-là quand on l'a, quoi. Quand on l'a en soi. On ne dit pas, je vais choisir cette vie-là comme ça, du jour au lendemain. C'est un chemin qui se fait tout seul, quoi, quelque part. On le suit, et voilà.
De cartes postales qu'on envoie de nulle part à personne.
Je me dis, peut-être que je devrais nager.
Oui, monsieur.
De routes endettées par leur propre chemin. De panneaux montrant leur propre direction. D'intersections multilatérales et de ponts souterrains.
Fantastique ! Tu vas perdre la vue ? Ton corps va se transformer en cire ? Il va falloir te mettre dans une couette. Et tu vas mourir à l'aide. Faut qu'il soit celui d'un raton laveur. Putain, je suis prêt à tout essayer dans la vie, mais jamais je ne toucherai une épiphyse, jamais.
Fini ta putain d'histoire.
Un trajet tiré à l'arc pour marcheur en mal de gravité.
Ceci
Souvenir lugubre et méchant.
Un module réalisé par elle.
Ressaisis-toi. Maintiens le cap.
Après, on retourne au studio.
Pendant
après.
Combien de nuits et de matins étranges est-ce que ça avait duré, ce bordel?
C'était des petites séquences qui étaient...
C'était une séquence pré-montée.
Quand je suis revenu à moi, l'atmosphère générale de cul-de-sac était trop pourrie. Trop étonnamment repoussant.
Tu as travaillé sur le thème du trajet, de la marche, de l'errance.
Combien de temps étais-je resté allongé ici? Toutes ces marques de violence. Que s'était-il donc passé?
L'étudiante suivante, elle a travaillé sur des trajets mémorisés, quoi, qu'elle a fait dans son enfance, etc. Et puis qu'elle.
Je
me
faisais une volée d'escalier. 40 marches, peut-être 50. Le nombre méchant. Une fois passé le portail en bois, il fallait tourner à gauche. Oui, c'est ça, à gauche. Je marchais tout droit pendant un certain temps, puis j'arrivais dans le virage au bout de la rue. Il était atteint à l'angle droit, et je me souviens qu'il n'y avait aucune visibilité. Il y avait souvent des chiens en plein milieu de la rue à cet endroit-là. Le virage amorçait une pente assez abrupte. Sur la gauche, je voyais l'arrière des maisons et leurs jardins. Ils étaient souvent mal entretenus, sûrement parce que leur inclinaison rendait la tente difficile, ou peut-être parce que ce n'était pas par ces jardins qu'on faisait entrer les bandits. Sur la droite, une forêt, peu sauvage. Une fois la descente terminée, il y avait sur ma gauche un escalier vieilli, si haut que je n'en voyais pas la vue. Avec en son centre une rambarde de gruyère, à laquelle il fallait se tenir pour ne pas tomber dans les marches penchées et de taille inégale. Les 203 marches, ça je m'en souviens, je comptais à chaque fois, menaient à la rue de laquelle j'étais partie et formaient avec celle-ci une boucle. Je m'arrêtais toujours un court moment pour regarder ces escaliers que je prenais souvent sur le retour, pour éviter la montée difficile et pour raccourcir mon temps de marche. Je poursuivais mon chemin. J'arrivais dans un virage qui allait vers la droite, mais je ne le prenais pas. En allant tout droit, j'entrais dans une petite ruelle pavée, dans laquelle il n'y avait rien que des tags si vieux qui commençaient à s'effacer. De temps en temps, une nouvelle inscription apparaissait. Dans cette ruelle, la seule chose à regarder était la toute petite cour d'une toute petite maison, dans laquelle habitait une grande famille, particulièrement silencieuse par rapport au nombre d'enfants qu'elle comprenait. La ruelle débouchait sur la route nationale, d'un coup beaucoup plus bruyante que le parcours que je venais de faire. Je tournais à droite en restant sur le trottoir. J'arrivais devant la pharmacie qui faisait l'angle de l'autre grande rue. Et j'allais un peu plus loin vers la droite pour traverser. À cet endroit, il y avait énormément de circulation. Le bruit en était assourdissant. La ville avait conservé les pavés de manière à préserver le patrimoine. Une fois que j'avais traversé, j'allais vers la gauche. Je continuais sur une vingtaine de mètres, peut-être un peu plus. Et j'arrivais à la rue Valandré, dont le plexiglas, lui aussi, était à vide.
23h20. Ça fait peut-être un quart d'heure que je suis partie, ou peut-être moins. Et donc pour l'instant, tout se passe bien. En tout cas, la météo est clémente et les gens que je croise en voiture essentiellement sont très agréables. Donc pour l'instant, on va dire que tout se passe bien. J'espère que ça va continuer, mais j'espère aussi me heurter peut-être à des obstacles un peu moins conventionnels que les barrières et les haies des habitations.
Sur ta gauche, le boulevard est maintenant quasiment désert. Il y a bien ces quelques ombres, mais pas de quoi s'alarmer. La nuit est tranquille. De la musique s'échappe des fenêtres d'un immeuble voisin, mais tu n'y prêtes pas vraiment attention.
Et si toutefois vous êtes tenté par mon expérience et ma démarche, je vous rappelle que vous pouvez aussi, si vous en avez envie, vous rendre de la même manière que moi à la fermeture éclair, pour peut-être m'y attendre et pour assister à la suite des événements du festival d'Antilles.
Chez moi, qui habite à 200 mètres, j'ai quand même 63 ans, même en voiture. Il y a un terrain de boule, et bien moi, je vais faire exprès de ralentir le pas, c'est vite fait. Hein. D'ailleurs, mon mari me dit toujours, je regardais toujours s'il n'était pas caché derrière le mur. Et c'est ce qui s'est passé, il était caché derrière un mur. J'ai été surprise, à cet endroit où je passais, des fois ça nous, dans la tête, il nous passe des flashs comme ça, parce que moi, j'aime pas le mois de novembre-décembre, mes soirées sont longues à la maison, j'essaierai de sonner une porte, mais vous savez, ils font tellement vite. Hein. Et moi, je suis pas télé, alors c'est tout à fait différent. Il y a des gens qui sont débiles. Donc, j'accélère le pas, je m'en retourne, j'allais faire exprès de ralentir le pas, tomber par terre, et si j'avais 80 ans, peut-être que je réfléchirais, hein. Mais c'est pas toujours le parapet à la main, hein, s'il pleut pas.
J'aime bien mettre une pause musicale parce que c'est fait de la radio quand même. De temps en temps, il faut respecter les règles. Voilà, après l'émission suit son cours. On retrouve Marianne face à des obstacles. Le plus grand obstacle étant presque au bout de son parcours, bien sûr, ça elle l'avait pu le prévoir, c'est qu'il faut traverser un canal qui est très très large. Et donc, elle est tellement tête brûlée qu'elle pourrait presque le faire à la nage, mais là, il faisait quand même trop froid, et puis elle était accompagnée par le preneur de son, donc ça n'a pas été possible. Et en gros, on avait une chance sur deux que ça se termine bien, une chance sur deux que ça se termine moins bien, parce que si elle avait tiré son jeton pour aller, et que le jeton lui avait dit « va à gauche », elle était bon pour un détour de plusieurs kilomètres jusqu'au prochain pont, et là heureusement il lui a dit d'aller à droite et c'est bien tombé puisqu'il y avait une passerelle juste à droite, donc elle a pu. Et ce qui est assez beau, c'est qu'à la fin il y avait des gens qui l'attendaient devant la salle de spectacle, qui l'ont applaudi, etc. Donc c'était, il y a un côté hyper touchant et émouvant aussi à la fin, et qui a fait que cette aventure s'est c'est heureusement terminé. Et voilà. Voilà, un petit tour.
En tout cas, ça capte parmi... l'attention. On a envie de la suivre sur son parcours.
De connaître la suite, ouais.
De voir comment est-ce qu'elle arrive.
Il y a aussi une rencontre à un moment donné avec des gens dans la rue. Alors elle est en roue libre, elle n'a pas de retour, elle ne nous entend pas. Donc elle est tout le temps à fond à décrire ce qu'elle fait, etc. Alors que, et moi je la passe à l'antenne sans préécoute. Parce que je sens que c'est le moment. C'est pour ça qu'à un moment donné on entend sa voix, on entend le fade-in, quoi. Parce que c'est... Et voilà, il y a des aussi par bonheur, par chance, il y a des... Quand je la mets à l'antenne, il se passe quelque chose d'intéressant, il y a le klaxon, et puis la fois d'après, c'est une rencontre avec quelqu'un. Et l'arrivée au canal, c'était hyper important aussi, parce que ça allait décider de la fin de l'émission, de la suite, et donc il fallait... Eh bien, c'est bien tombé, quoi, tout ça. Tout ça est bien tombé. En fait, il y a une sorte de... Je dirais, il y a une sorte de communauté d'esprit qui se met en place, je pense. Enfin, j'ai jamais réfléchi à la télépathie, mais je trouve que dans ces moments-là, dans des moments où on est hyper concentré et dans une espèce de transe de la performance, c'est-à-dire que là on est sans filet, quoi, comme aussi avec le concert de Nicolas Frise, c'était sans filet, quoi. Il fallait y aller et ça ne reposait que sur nous, et il faut assurer le truc, quoi. Il faut assurer le truc pour les auditeurs. Bien sûr, on peut on est sur des radios associatives, si on se plante c'est pas grave, il n'y a personne qui va nous donner un coup de bâton et qui va nous virer parce qu'on n'est pas payé pour le faire. Mais il faut que ça tienne, quoi. Et donc on est dans cette espèce d'état second avec les autres membres du collectif aussi qui ont chacun leur part à jouer, et qui chacun avec sa part à jouer, sa diversité, et puis son voilà, c'est une sorte de conjonction de toutes ces énergies, en fait.
Dans le cas de Radio Phoenix, je crois,
ouais.
De l'autre, est-ce que ça laisse des traces, en fait, le passage, ce genre de projet, en fait, où j'ai un peu les lignes, j'imagine.
Alors, dans le cas de Radio Phoenix, c'était très très nouveau. C'est Radio Phoenix, c'est une toute petite radio qui est très très récente, qui a 2 salariés et qui a globalement peu d'émissions, en fait. Il y a des bénévoles, bien sûr, et il y a peu d'émissions. C'est quand même une radio qui démarre sa vie. Et c'est très musique actuelle, journalisme culturel, voilà. Ça bouge pas, il n'y a pas de création, en fait. Et donc, par contre, c'est des gens très ouverts. Donc, il a fallu leur expliquer. Et puis, ils étaient très, très ouverts. Et ils nous ont laissé carte blanche pour ça, parce qu'on utilise des créneaux qui, habituellement, c'est leur prog musical, quoi. C'est la prog qui tourne en boucle. Il n'y a pas d'émission à ce moment-là. Donc, ils étaient d'accord. Après, moi, j'ai pas eu beaucoup de retours. Quand on fait de la radio, on a peu de retours. Et par exemple, le gars de la radio qui est un des 2 salariés, qui est journaliste et qui nous a accueillis, qui nous a épaulés, qui nous a accompagnés, etc., n'était pas là à ce moment-là, au moment de l'émission. Et je ne crois pas qu'il écoutait. Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas eu de retour. Pour Radio Grenouille, c'est différent. C'est une radio qui est née en 80, où il y a un aspect de création et de créativité, même généralisé sur l'antenne, qui est très ancien, enfin qui est de naissance, quoi, je dirais. C'est une radio qui est née dans un théâtre, qui n'est plus dans un théâtre depuis longtemps, mais qui cultive ce genre de projet. Ouais. Donc c'est pour Radio Grenouille, c'est plus habituel.
Et
C'était un projet hors cadre définitivement, celui-là, parce qu'accueillir un artiste en résidence, ça se fait très peu. Et puis ça a été vraiment le gros projet de l'histoire de Radio Grenouille, quoi, en termes de ce que ça a remué comme participation, etc. Et moi, je suis arrivé en cours à ce moment-là, dans cette radio. Mais ça, c'est plus habituel, cette radio. Donc il y a des espaces, il y a des radios qui sont ouvertes à ce genre de choses. Et de toute façon, on ne rentre pas dans les radios associatives comme dans la radio publique. Ça se fait pas du tout de la même façon. Et déjà, ça se fait avec un engagement. Un engagement, ne serait-ce que l'engagement de soi-même, bénévolement, à tenir une émission. Voilà. Donc quand on propose des projets, on peut aussi rentrer par les émissions, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'on fait. On fait une discussion, une pause. Moi, je ferais une petite pause, mais je sais pas si on reprend vraiment quelque chose après. Ou... En fait, Jean-Michel m'a dit que ce serait bien qu'on parle de ce que vous faites ce soir et éventuellement préparer quelque chose pour ce soir. Mais moi, ça me semble un petit peu difficile, mais on peut en parler sur ce que vous avez déjà prévu.
On peut faire une petite pause et puis
ouais. Tout ça. Je laisse le son. On reprend à... on reprend à 4 heures. C'est bon ?